Sous les pavés, la Ferrarock.
Interview d'artistes.
Paroles de musiciens. Histoire de groupe.
Et nous sommes avec The Aerial. Pour présenter rapidement le groupe, c'est quatre jeunes musiciens qui proposent le temps d'un 4 titres, un mélange efficace et assez catchy de power pop avec une touche aérienne.
Assez catchy.
Bah, beaucoup
bien,
catchy,
même beaucoup catchy. Le dernier morceau du concert, il l'était beaucoup.
Ah, merci.
Et dont les influences vont entre The Falls, Tudor Cinema Club et un aspect assez anglais dans les mélodies pop. Est-ce que ça vous va?
Oui, c'est pas mal.
Alors, est-ce que vous vous souvenez de vos premiers contacts avec la musique?
C'était au lycée pour moi, ouais, au lycée. Ouais. C'était les vieux CD Nirvana qui traînaient dans la discothèque de ma mère.
Ouais, nous, Antoine et moi.
Ah, le crunch, ça nous a tous marqué. On a toujours une anecdote avec avant la mort. Enfin,
moi, j'ai appris qu'il était mort 5-6 ans après. Il y a un mec qui est venu au collège le matin, il m'a fait « Tu sais que Kurt Cobain est mort ?» J'ai fait « Ah bon ?» Il m'a fait « Ouais, ça fait 4 ans. »
D'accord.
Voilà.
Ah donc, ouais.
J'avais pas internet, tu vois.
Non, mais t'avais une t'étais fan de Nirvana, mais sans être fan non plus de l'aspect visuel.
C'était juste la musique, je savais même pas à quoi ils ressemblaient les types.
Moi, j'ai pas écouté ça. J'ai écouté du gangsta rap. J'ai écouté.
T'étais plus Tupac.
Nas, tout ça. J'ai vraiment. Ma première musique, c'était du rap gangsta, quoi. Voilà.
D'accord. Et vous?
Et nous, on a fait un. En fait, on a fait de la musique la première fois dans un orchestre de collège.
Ouais, c'est ça. On était en sixième. On faisait des reprises des Blues Brothers, des choses comme ça.
Pas mal, hein.
On était en sixième, on avait des chemises blanches, des lunettes de soleil et nos parents applaudissaient.
Vous étiez très très académique.
Très académique.
Ouais, un peu trop,
Et selon le contraire d'ailleurs, avec The Aerial, vous prenez pas la tête, vous avez pas vous théorisez pas la musique du tout. Enfin, on l'a vu sur scène tout à l'heure. C'est plutôt bien passé. Très savant, le dernier morceau qui est peut-être le plus efficace du set et même du maxi. Vous mettez à la fin.
C'est bien pour finir. Quoi. C'est une chanson très pop. Après, dans le set, il y a peut-être plus de hip-hop, des influences new wave. Mais ouais, c'est cool pour finir.
Parce que c'est le chanteur de Pulp, je me souviens, Adour, qui disait que voilà, les gens qui viennent te voir en concert, la chose qu'ils attendent, c'est le tube final. Et on sait que c'est dans les rappels que ça se passe. Il avait un petit peu.
Oui. Enfin, je pense que c'est le plus catchy, quoi. C'est la chanson qui reste dans la tête le plus, peut-être.
Est-ce qu'il y a eu l'urgence pour faire le 4 titres? Une certaine urgence?
Pas du tout, non, justement, on a pris beaucoup de temps. On a pris carrément un an, ouais.
D'accord, vous avez vraiment.
Ouais. On a fait ça avec beaucoup de recul. Et ce qu'on aime par-dessus tout quand on enregistre, c'est justement sortir du cadre studio où tu dois enregistrer ton truc en une semaine et après c'est fini. Là, on a vraiment pris du temps, on a enregistré des choses, on est revenu dessus, etc. Et c'est notre manière de voir l'enregistrement, en tout cas pour l'instant. Et c'est vrai qu'on aime bien retravailler les choses jusqu'à un certain point, bien sûr. C'est ça qui est dur, justement, de à un moment se dire bon, maintenant ta chanson elle est finie et il faut plus y toucher, parce que t'as toujours tendance à.
Être perfectionniste.
Voilà.
Et alors j'ai une petite anecdote. Enfin, je lisais il y a quelques mois dans Vox Pop une interview cet artiste citait Jean-Baptiste Mondino qui a une théorie assez intéressante sur le fait que les groupes aujourd'hui vont peut-être recommencer à se comporter de façon non professionnelle. Dans votre dossier de presse, j'ai vu que vous ne voulez pas sortir de disque physique parce que c'est plus trop la peine aujourd'hui. On a l'impression que maintenant, que peut-être que par rapport aux années 60-70, le format single va reprendre de dessus.
Les groupes vont
faire plaisir vraiment pour la musique et pour la passion de la musique. Sa forme sera beaucoup plus libre. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
C'est juste au niveau du non-professionnel. Je vois pas où est le non-professionnel dans le fait de donner sa musique gratuitement, justement. C'est une démarche comme une autre. Pour nous, c'est une démarche premièrement artistique. On n'a jamais acheté de musique. On pense que la culture est une chose libre et qu'on ne doit pas avoir à l'acheter pour y avoir accès. Et c'est une démarche purement artistique et pas une question de professionnel ou non professionnel, bien sûr.
D'accord, voilà. C'est vraiment une question de passion à fond, quoi.
La vision des choses, surtout pas passion ou.
Moi, je pense que. Moi, en tout cas, je viens d'Angleterre. Et nous, ça n'existe pas, l'intermittent de spectacle. Ça n'existe pas. Donc pour moi, c'était quelque chose de nouveau. J'ai dit, bah, les gens, ils sont payés, ils ont un salaire pour faire de la musique. C'est dingue. C'est complètement.
T'as étonné quand t'es arrivé en France,
bien
le
sûr,
fait de
voir les. Tout ce qui est par l'État, tout ça, pour moi, ça n'existait pas en Angleterre. Il y a un autre moyen, il y a une autre façon de faire de la musique en France. Je dis pas que c'est mauvais, mais c'est différent. Et nous, on a dû adapter à ça, bien sûr. Mais finalement, non. Dès qu'on devient intermittent, on est obligé de faire quelque chose. On est obligé de jouer, on est obligé d'enregistrer.
Il y a une pression, en fait.
Pas de pression, mais on est limité. Nous, on aime bien prendre notre temps avec les EP.
On rentre dans une case et être intermittent, c'est vraiment pas quelque chose qui nous intéresse. Nous, on veut professionnaliser le projet, mais la case intermittent, c'est pas ce qui nous intéresse, en tout cas.
D'accord.
Voilà, on veut rester libre et faire de la musique pour ce groupe-là.
Ouais. On veut juste être nous-mêmes, ouais. Quoi, faire la musique et être surtout nous-mêmes, quatre personnes différentes qui font de la musique ensemble.
Parce que perso, je trouve ça super bien. Mais d'un côté, enfin voilà, je suis une baignée moi avec les, avec le CD, avec le vinyle. Bon, on est tous de la même génération. Mais est-ce qu'il y a quand même, quel est le danger pour un groupe comme vous qui nie le support physique?
En fait, on nie pas
forcément. Ouais. On veut pas le commercialiser. Juste là, par exemple, notre EP est sorti, on en a fait presser 3000 copies, mmh. Et on le distribue gratuitement sur à la fin des concerts ou sur notre merch online. Voilà, le physique, l'objet, tout ça, on aime ça. Le vinyle, c'est des choses qui nous intéressent, qui nous plaisent. C'est surtout la gratuité qui nous intéresse. C'est le format CD, le format album. On n'aime pas trop les trucs de 14-15 morceaux. On n'est plus du tout dans cette optique-là, nous.
D'accord,
on est sur les petits formats qui sortent souvent gratuitement et qui peuvent se diffuser facilement.
Et donc du coup pour un album, vous allez prendre votre temps
ouais, la question se pose même pas pour l'instant.
Non, oui, enfin, il y a beaucoup de groupes qui disent ouais, il faut faire un album.
Mais ouais, dans les codes, dans les cases.
Qu'est-ce que ça sert? À quoi ça sert de faire un album? Si tu fais un album, tu dis ouais, c'est mon deuxième album. Il y a personne
côté prétentieux,
qui...
non, bah, peut-être que
pas
non,
à côté pas. Prétentieux, mais un côté oui, parce que j'ai fait un album, je suis musicien. Ouais. Non, tu es une merde. Enfin, t'as fait un album, mais ça a pas vendu. Tant pis pour toi. Ouais. Donc nous, on prend notre temps, on fait des chansons. Et pourquoi pas? Enfin, pourquoi on doit faire un album en fait?
C'est les codes, quoi. Tout est très, codifié.
Après, il faut pas oublier que c'est un milieu artistique et que dans un milieu artistique, il n'y a pas vraiment de code au final. Mm-hmm.
L'ancienne génération.
On les a créés, ces codes-là aussi. Voilà, ouais. Vous, comme musicien, c'est vrai qu'il y a le business de la musique et puis les gens qui font de la musique par passion totale, et par passion commune. Et c'est peut-être ça qu'on oublie, hein, je sais pas, aujourd'hui.
On va voir comment ça évolue. Peut-être l'album il va mourir, peut-être il va revenir très très fort.
Voilà,
quoi.
Ouais.
Voilà,
c'est des tendances et des modes, un peu les montagnes russes, quoi.
Il faut suivre un peu quand même.
Mais ce qui est super intéressant dans cette période, c'est que au final tout repart à zéro et tout est à recommencer. Et ça permet aussi de non seulement créer de la musique, mais créer aussi un nouveau modèle. Par exemple, nous, je sais que, on se repose sur le live et le merch. On vend du merch, mais c'est une manière de voir comment gagner sa vie avec la musique sans la vendre, etc. Et c'est vrai c'est assez excitant de pouvoir créer quelque chose comme ça de nouveau, puisqu'avant, au final, tu créais ta musique, mais tu reposais toujours ton truc sur un modèle qui avait déjà été créé. Et là, on peut aller plus loin dans la création et vraiment reprendre les bases à zéro et tester des choses plus profondes. Voilà.
En 2007, quand Radiohead avait proposé le In Rainbows en prix libre, ça vous avait donné. Est-ce que vous vous souvenez ce moment-là? Un groupe arrive à faire ça.
Quand Radiohead le fait, Radiohead peut tout faire, quoi. Mais ouais. on était fous quand on a mis ça, on était fous.
Ouais.
Et moi, je l'ai quand même téléchargé sur iTunes, sur Napster, je crois. je l'ai quand même craqué. Mais ouais, non, c'était une super idée.
Ouais, ils ont donné le c'était le prémisse,
le départ
d'une. Attention,
c'était pas très risqué pour eux aussi, quoi.
Oui, aussi, ouais. C'est ça un petit peu la limite, j'ai l'impression, entre des groupes comme Radiohead, ils sont placés, ils jouent depuis des années.
C'est important qu'un groupe comme ça s'engage dans un truc. Dans un projet nouveau.
Après, il faut pas voir notre truc comme un truc politique. C'est vraiment pas politique. C'est par rapport à la musique.
Oui, puis même on l'entend bien dans votre musique. Hein, c'est vraiment quelque chose pour s'amuser.
C'est pas pour s'amuser. C'est juste nous-mêmes, quoi. Enfin, voilà, on va pas plus loin que nous-mêmes au final.
Quel genre de choses aimez-vous lire sur la musique? Oui.
C'est dur en fait. Moi je lis pas trop sur la musique en fait. J'ai du mal avec certains blogs très hype.
Voilà, je lis pas trop de presse écrite sur la musique.
C'est vrai qu'on a du mal à. Enfin, c'est bizarre de mettre des mots sur de la musique, d'intellectualiser tout ça. Et nous, on veut. Enfin, on veut. C'est pas, on n'a pas une musique qui est comme ça en tout cas.
C'est vrai. Après, moi je lis les un rock, je trouve que en général ils ont un bon. Ils voient les choses bien là-bas, pour moi.
Dernière question, de quoi avez-vous besoin pour faire un bon morceau de musique?
Du temps.
Ouais, du temps.
Du temps,
un peu de bière.
Ouais, c'est surtout un feeling, tu vois, les trucs que tu enfin que qui sont pas tu peux pas les toucher, c'est des choses abstraites, c'est un courant, tu le sens quand ça vient. Et je sais pas, c'est marrant, c'est justement comme en concert, tu sens quand il y a un truc qui se passe avec le public et toi, mais au final tu le contrôles pas, c'est pas toi qui te dis là ça va être cool. Dans la composition c'est la même chose, il y a une part de chance, une part de hasard, et c'est ça que c'est un défi, et c'est excitant justement de ben, des fois de se tromper, des fois de pas réussir à faire ce que tu veux faire, et tout d'un coup ça va sortir comme par magie, et c'est là où tu te dis cool, je continue comme ça.
Et du coup là, le concert qui s'est passé entre 12h30 et 13h, ça l'a fait. Hein. Enfin, moi, j'étais à côté de la console et
moi, j'ai
regardé.
Franchement,
c'était super. Ouais.
C'est très très bien.
Je crois qu'on est tous les quatre, on est super contents.
Et du monde.
Ouais,
vraiment. Ouais, t'as kiffé, ouais. Toi?
Ah oui, je suis arrivé avec un peu de retard. J'avais 45, mais franchement, c'était très bon live. Dernier morceau avec une pause. On croit que c'est la fin.
On fait des petites surprises comme ça. On est coquins.
Les belles mélodies qui restent. Le dernier morceau, c'est il y a un truc qui fait que la mélodie reste dans la tête. Quand
c'est la parce qu'on la répète pendant 5 minutes. C'est peut-être
c'est
ça.
La mélodie. Hein, c'est. Enfin, pour la pop, il faut de la mélodie.
Oui, voilà, c'est ça.
Voilà.
Merci beaucoup, Zeriol.
Merci à vous.
Et on vous retrouvera d'ici là. Est-ce que vous avez fait des dates pour cet été, des festivals?
Oh, ouais, il y a pas mal de trucs. On sera sur le Beauregard. On sera sur le Chien Plume dans l'est de la France. On sera un petit peu sur Paris. On a un programme assez chargé.
D'accord.
On va pas s'ennuyer.
Bah, tout, on peut retrouver tout sur zeriol.fr, bien sûr. Avec l'album, enfin l'EP, en téléchargement gratuit. Voilà, le 4 titres.
Gratuit. Free. Free is a bird.
C'est gratuit.
Bah, merci beaucoup, en tout cas.
Merci à vous.
Et bonne continuation.
Merci.
À bientôt.
Retrouvez d'autres interviews sur ferrarock.org.